BFM Business et Takenco présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, deuxième partie de ce De quoi je mêle. Un grand merci de nous écouter, de nous regarder. Je vous rappelle que De quoi je mêle en exclu et en avant-première dès le vendredi midi sur la chaîne YouTube de Takenco et aussi en podcast audio. Et évidemment, on ne change pas nos habitudes. Vous aurez quelques minutes supplémentaires si vous nous écoutez sur le podcast. Et puis après, le week-end, bien sûr, le vendredi soir sur BFM Business à la radio, à la télé, puis rediffusé aussi le samedi et le dimanche. Anthony Morel est toujours avec nous. Gonzague d'Ambricourt, Nicolas Guyot pour cette deuxième partie. Et Anthony, on va parler maintenant de robots aspirateurs. Il faut savoir que c'est un marché qui est, verrouillé par les Chinois depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, tous les robots aspirateurs que vous achetez viennent de Chine.
70% du marché.
Ouais, c'est monstrueux. Sauf que, il y a une nouveauté qui vient de la Silicon Valley.
Oui, c'est ça. Alors, c'est un aspirateur américain, mais qui enflamme la presse tech aux États-Unis. Il n'est pas encore sorti en France, mais c'est aussi pour ça qu'on voulait vous en parler, parce que c'est un petit bijou de technologie, on va y revenir. Et pour la petite anecdote, et c'est ça qui m'a titillé, et c'est pour ça qu'on en parle, il a obtenu, alors vous connaissez le site Wired, évidemment, qui est un site tech de référence depuis des années, des décennies, donc il teste tous les produits possibles et imaginables, et ce robot aspirateur qui s'appelle le Matic, ils lui ont donné la note de 10 sur 10. Et chez Wired, le 10 sur 10, c'est genre une fois tous les 5 ans.
Ouais, c'est rarissime,
Vraiment, d'accord. Ça n'arrive quasi jamais. Okay. Je me dis, mais quand même, c'est complètement incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un robot qui a été conçu par des anciens ingénieurs de chez Google. Ils se sont dit, on va révolutionner l'aspirateur robot. Alors, ils y ont intégré une couche d'intelligence supplémentaire. Ce petit robot aspirateur, on va lui parler, on va lui donner des ordres. C'est-à-dire que tu vas le commander et lui dire, va nettoyer les plantes du salon. Tu vas lui dire, tu peux lui montrer
Passe-moi l'aspi sur le tapis, quoi.
Passe-moi l'aspi sur le tapis. Ah là, sur le tapis, il reste une tâche. Et tu lui montres, en fait, du doigt. Et il va aller nettoyer là où tu lui montres.
Nico a fait tomber un morceau de pizza sur le parquet.
Par exemple, la fameuse. Et donc, du coup, il va venir récupérer la pizza. Parce qu'en fait, la plupart des robots aspirateurs sont équipés de télémètres. Lui est équipé de caméras. Donc, 6 caméras intelligentes qui sont capables d'analyser tout ce qui se passe et de le rendre un peu plus malin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va pas faire, vous savez, bêtement des allers-retours, et vous allez avoir le message aspirateur bloqué, il faut venir le débloquer. Lui, en fait, il va voir et comprendre ce qui se passe chez vous. Et donc, il va pouvoir zigzaguer, se faufiler un petit peu partout, comprendre vos habitudes aussi, c'est-à-dire il voit que par exemple après les repas, vous mangez souvent, vous êtes autour de la table de la cuisine, il y a des miettes de pizza, il y a des croûtes par terre, parce que Nico mange comme un cochon, et donc l'aspirateur, il vient récupérer les croûtes de pizza.
Bon, pauvre Nico, il a rien demandé.
Il a rien demandé, il prend des balles perdues. Donc voilà, en gros c'est ça. L'idée, c'est ils ont ajouté finalement une brique d'intelligence. Alors tout ça, vous allez me dire peut-être, c'est un peu gadget, mais ça permet sur un marché qui est très concurrentiel, celui des aspirateurs robots. D'avoir un petit peu de nouveauté. Et en tout cas, les journalistes tech qui ont testé ce robot, on n'a pas pu le tester encore, il est sorti aux États-Unis seulement, le trouvent absolument, absolument incroyable.
Alors, si vous êtes avec nous en vidéo, vous voyez les petites vidéos de présentation qui sont quand même assez rigolo, parce qu'on dirait une imprimante scanner à roulettes. Mais il est tout mignon, c'est clair. Visiblement, on jette le sac quand il est vide, au lieu de le garder, tu le jettes.
Il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base qui.
Il n'y a pas de base.
En fait, ce qui est quand même incroyable, parce que donc il est très populaire, mais il est quand même assez cher. Il est vendu actuellement $1,250 et il revient en septembre à 1,500, qui est le prix de lancement. Il n'a pas de base. Quand il aspire du liquide, ils le font sécher avec un gel assez particulier. Donc, c'est des sacs jetables qu'il faut jeter toutes les semaines et qui a un prix de composants quand même de consommables assez élevé.
Donc tu as les sacs, tu as le gel, j'imagine.
Exactement. Après, dans les trucs rigolos sur le produit, il a cartonné sur X. Il y a plein de gens un peu riches qui se sont mis à montrer des vidéos qu'il avait à la maison. La fonctionnalité de commande vocale est récente. Et normalement, je gère 70 langues, donc marrant. Et il est un peu...
Tu peux lui demander de ramasser les pizzas en ourdou, en bengali.
Ça marche.
Mais il est un peu contrarié dans sa politique. C'est-à-dire qu'à la base, ils ont quand même lancé ce robot qui est capable de fonctionner sans Internet, en Bluetooth, parce qu'il embarque une carte Nvidia Jensen Nano. Donc, assez dingue.
Donc il a de l'intelligence, on va dire.
Il a de l'intelligence, c'est ça qui fait fonctionner ses caméras. Donc lui, le plan de la maison qu'il fait, il n'est pas uploadé à l'extérieur.
Okay.
Donc, par exemple, Amazon qui voulait racheter iRobot, c'était beaucoup pour avoir aussi accès au plan des maisons.
Et on sait que la plupart des robots chinois, eux, envoient toutes ces datas, toutes ces données.
Et on a vu beaucoup là, l'été dernier, les piratages qu'un chercheur français, Samy, a mis en exergue sur DJI et sur tous les constructeurs.
Ouais.
Donc ça, c'est local. Mais le truc con, c'est que la reconnaissance et le contrôle vocal se passe par Google. Donc ça, c'est pas local. Donc c'est fou parce qu'il a eu cette note incroyable et en même temps, il a plein de trucs un peu basiques ou pas très pratiques. Devoir jeter des sacs, ça coûte cher. Et à la base, cette boîte, elle voulait le louer, ce robot. Ils voulaient le louer $125 par mois. Et ils ont finalement basculé sur le modèle de la vente. Et ils n'en ont pas vendu énormément non plus. C'est un produit qui s'est vendu à 16 000 exemplaires, je crois. Donc c'est pas encore menaçant pour les Chinois. Ce qui les menace, c'est que le gouvernement américain est en train de durcir toutes les lois autour du fait d'acheter américain. Il faut que ça soit construit aux États-Unis avec 65%
de composants américains.
Ce qui est quasi impossible.
Donc, oui, parce que même sur ce produit-là, je suis persuadé qu'il y a des composants chinois.
Bien sûr.
C'est obligé.
Il est fabriqué et assemblé aux États-Unis, mais c'est bardé de composants asiatiques. Ouais.
C'est-à-dire qu'il bénéficie aussi de toute cette dynamique, on va dire, géopolitique actuelle. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Et puis, je vous rappelle une dernière chose, c'est que le seul constructeur de robots américain, iRobot, a mis la clé sous la porte et a été racheté par des Chinois, je crois.
Oui, ça devait être racheté par Amazon et ça s'est fait bloquer par l'autorité de la concurrence américaine.
Et en fait, ils n'ont pas tenu le coup. Ils n'avaient pas assez de cash. Et je crois que c'est l'un des fournisseurs d'iRobot chinois qui a racheté, en fait, la marque iRobot.
Non, mais c'est marrant. Moi, ça me fait penser aussi, parce que tu te dis sur un marché qui est aussi concurrentiel, parce que mine de rien, alors il y a des acteurs trustés par les Chinois, mais il y a beaucoup de concurrence quand même entre les différents acteurs. Et donc, c'est à qui ajoutera finalement ce que tu dis à un moment, robot aspirateur, qu'est-ce qu'il peut faire de plus, quoi? Il aspire bien, ok, super. Et donc, il y a plein de trucs qu'on voit, notamment sur les grands salons au CES. Tu te souviens, là, ce qu'on avait vu, le robot avec la pince qui ramasse la chaussette qui traîne, ou cette année, le truc encore plus dingue et encore plus débile, c'était le robot aspirateur avec un drone. Tu te souviens de celui-là?
Tu avais
le drone qui venait se poser sur le robot aspirateur et qui le faisait aller à l'étage supérieur pour qu'il puisse faire deux étages.
Et le robot qui fait monter escaliers. Le robot.
Le robot dans le robot maintenant.
Non, mais c'était cool. Et franchement, le truc, c'était ridicule parce que ça faisait un boucan d'enfer. Ça va être hyper dangereux. T'es dessous, le drone lâche l'aspirateur.
Tu prends sur la figure.
Ça n'a aucun sens.
Dans la torpeur de l'été, en fait, c'est nos collègues américains, en fait, ils ont vu un truc qui changeait, en fait. C'est que là, les robots aspirateurs, ça fait 5 ans. On les voit, nous, alors ils sont de plus en plus performants, hein, mais ils viennent tous du même endroit, ils ont tous la même gueule, ils sont tous le même concept. Alors effectivement, ils essayent d'ajouter une pince, un machin, un truc, etc. Mais au final, ils se ressemblent tous. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui fonctionne, tous les Chinois adoptent la même chose. Donc ils ont tous la même gueule et le même fonctionnement. Là, on a un robot, il est carré, donc un peu cubique même.
Il n'a pas de base, comme
il n'a pas de base. Zag. On communique avec lui d'une autre façon. Je pense que le truc, c'est ça qui a fait tilt.
Après, il y a plein de robots chinois avec lesquels
avec
on peut discuter.
Avec la commande vocale.
Commande vocale, mais là, ils vont quand même beaucoup plus loin.
Tu vois, c'est rigolo, mais les gens qui l'essayent, ils disent s'ils passent le pied d'une table, ils se perdent. Les jambes des gens avec les pieds des chaises. Bon.
Je pense que comme c'est un produit américain, il y a eu aussi
encore,
ça.
Je pense qu'il y a ce côté, on l'a fait, il est mignon, ça change, mais... Ils sont dingues. DJI qui a sorti son modèle.
DJI qui vient de sortir le Romo 2, visiblement. Il a un truc rigolo, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, lorsqu'il détecte les plaintes ou alors des angles, il sort. Il a comme un truc qui se déclenche, un petit bras qui nettoie en fait les angles morts finalement d'un robot traditionnel. C'est quand même assez impressionnant.
Surtout, là, il y a une innovation. Mais j'attends de voir les Chinois là dans 6 mois là.
Mais bien sûr,
là, les gars, ils ont la même version
et peut-être encore mieux
avec l'efficacité de leur base habituelle.
Surtout que les robots chinois et asiatiques sont beaucoup faits au même endroit, donc en fait toutes les il y a une partie des marques qui manufacturent dans
évidemment,
les mêmes usines.
Évidemment. Et oui, mais c'est cette bataille des robots Aspi. Et d'ailleurs, c'est dingue, hein, parce qu'aujourd'hui, vous allez dans les Fnac, les Darty, les trucs comme ça. Il y a des rayons entiers de ces robots-là.
Et à tous les prix.
Et ça marche. Ouais. Ça marche parce que les gens se disent, OK, bah, si ça m'évite de passer l'Aspi de temps en temps, etc., etc.
Le taux de renouvellement est supérieur même aux aspirateurs. Hein,
ouais, oui, une fois que tu y as goûté. Ouais. Mais en fait, il y a un énorme marché à conquérir parce que je crois que c'est 15% des foyers qui sont équipés en France. Donc tu vois, il y a encore beaucoup de foyers.
Et surtout, si vous avez déjà un robot aspirateur à la maison qui date d'il y a 4-5 ans, oubliez-le. Hein, vous voyez ce que font les nouveaux.
Ouais. C'est notamment la puissance d'aspiration.
La puissance d'aspiration, le lavage. Les bases permettent, vous n'avez plus besoin de mettre d'ouvrir ou enlever des sacs ou des machins, etc. Et tout, il se nettoie tout seul. Et maintenant, ça va être la LIFA. Hein, ils vont monter les escaliers tout seul.
Et parfois, t'as des promos avec des Xiaomi à 100 €. Enfin, je veux dire, à un moment, tu réfléchis même plus. Si t'as des enfants ou des animaux, etc.
Le truc, c'est qu'avoir une maison ou un appartement bien rangé, quoi. Parce que sinon,
Il commence
à. C'est un peu bordélique.
Si t'as des chaussettes et des partout, c'est pas bon.
Et surtout des morceaux de pizza.
Mais ça, bon, chez Nico, il n'y en a pas. Hein.
J'habite dans une pizzeria.
On reste dans les robots, reste en Chine avec Unitree, cette boîte incroyable qui nous bluffe à chaque fois avec des nouvelles vidéos postées, alors soit de boxe, soit de tu en sais quelque chose, Anthony.
Je me suis pris quelques pains,
Il s'est pris un uppercut dans le ventre en janvier dernier là, c'était quand même assez impressionnant. Ouais. Les danses, enfin les trucs comme ça. Et alors ce qu'il y a de fou, c'est que la Chine, pour apporter encore plus de ludique dans cette compétition technologique qui est incroyable, a organisé des Jeux Olympiques un peu.
Oui, c'est ça, Olympiades robotiques.
Voilà, des Olympiades robotiques.
C'est exactement ça. En fait, il y avait deux événements quasiment au même moment pour vraiment montrer leurs muscles technologiques. C'était la World Robot Conference, donc qui est vraiment la grande conférence mondiale selon son nom de la robotique, mais qui est une conférence chinoise qui est organisée chaque année en Chine. Et puis quelques jours plus tard, il y avait donc ces Olympiades robotiques qui étaient organisées en grande pompe à Pékin avec vraiment tous les codes des JO, c'est-à-dire qu'il y avait une cérémonie d'ouverture, c'était dans un stade, vous aviez donc du public, vous aviez un défilé, le défilé des athlètes le premier jour.
Parce que là, il y avait tous les pays, il y avait beaucoup de pays, il y avait pas que la Chine.
En fait, il y avait 16 pays, mais en réalité, quand tu regardais, t'avais 95% de robots, c'est des robots chinois en fait. Donc ils étaient vraiment ultra surreprésentés. C'était des laboratoires universitaires, des labos de recherche, des grandes entreprises qui venaient présenter leurs modèles. Et donc ces modèles s'affrontaient dans une cinquantaine de disciplines. Alors beaucoup de disciplines sportives, il y a aussi des trucs non sportifs, mais c'était beaucoup. Donc t'avais du sprint, de l'haltérophilie, du saut en longueur, du
tennis saut en hauteur.
Il y avait vraiment plein de trucs. Et c'est vrai. Alors déjà le défilé des athlètes, enfin c'est vraiment les Stormtroopers dans Star Wars, c'est presque un peu, inquiétant, tu vois. Et après, quand tu vois les images des robots sportifs, je dois dire que c'est de plus en plus impressionnant puisqu'il y a un certain nombre de records humains qui ont été battus.
Donc, pulvérisés même, carrément.
Pulvérisés. Donc tu as notamment le record du 100 mètres mythique du Usain Bolt, évidemment, qui a été battu par un robot qui s'appelle Lightning. Donc Lightning, c'est la foudre. Et il a fait donc le 100 mètres en 9 secondes 39. Donc 9 secondes 39, c'est vraiment explosé le record du Usain Bolt. Et alors, on va dire, c'est facile, c'est un robot. Mais en fait, non, c'est extrêmement, extrêmement compliqué d'avoir la coordination, l'agilité et la puissance pour pouvoir battre Usain Bolt au sprint. Ça se fait pas comme ça. Et ça fait des années et des années que les fabricants de robots
travaillent. Je sais pas si vous avez j'ai vu la course, le 100 mètres, ça se finit.
Oui.
Le truc, il finit dans les bâches et le robot, il prend feu.
Ouais.
Tellement le truc, il a donné.
C'est assez drôle.
Il allait au bout de son effort.
Des gens qui se sont mis à dire, si vous êtes poursuivi par un robot, courez vers un mur. Il va aller dedans. Mais moi, ça me rappelle, vous souvenez, ça fait des années qu'on voit les combats de robots, donc des écoles d'ingénieurs et tout qui font les robots qui se retournent avec
les émissions même.
Mais oui, c'est extraordinaire. Et qui aurait pensé voir là, sur un track comme ça, des robots courir plus vite.
Gonzague, l'année dernière, rappelle-toi, il y avait eu déjà les premiers JO, les gars, ils faisaient juste le petit marathon, quoi. Il y avait un truc, les robots, ils avançaient pas, c'était catastrophique, etc. Et là, maintenant, c'est incroyable.
Et si vous rappelez aussi, en fait, ça fait des années qu'on parle de Boston Dynamics, qui nous a toujours impressionnés avec ces robots qui sautent, le robot chien, le machin, qui étaient d'ailleurs tous très flippants. Et là, c'est le marché asiatique a complètement pris le devant de la scène médiatique.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la vitesse de la progression de ces robots. Parce que, alors tu le disais, nous on a l'occasion d'en voir et d'en tester assez régulièrement. Quand tu vois où on en est aujourd'hui versus où on en était il y a un an ou deux ans, c'est quand même très très spectaculaire. Moi, par exemple, pour prendre un autre exemple que la boxe où je me suis fait laminer par un robot, c'était...
D'ailleurs, je pense qu'il faut que... comme tu vas aller sans doute au CES l'année prochaine, que tu t'entraînes.
Oui, bah,
avant d'arriver là-bas.
Ouais, c'est ça.
Tu formes un robot.
Pour que tu puisses te battre à armes égales.
À armes égales, ce serait bien. Mais tu vois, par exemple, j'avais affronté, bah, c'était au CES, mais... je crois que c'était l'année d'avant, un robot au tennis de table. Et moi j'ai un niveau camping quoi, au tennis de table, donc je joue, mais voilà.
Oui,
quoi.
Oui.
Et j'arrivais à tenir tête au robot. Aujourd'hui, t'as des robots comme celui de Sony qui avait été présenté il y a quelques mois et qui s'appelle Ace, qui bat aujourd'hui des professionnels humains. Qui est pas encore au niveau des frères Lebrun, mais qui est au niveau des professionnels humains. Donc c'est te dire, si tu veux, l'évolution, bien c'est-à-dire sûr. Dans la capacité à analyser la vitesse de la balle, à positionner la raquette de manière presque parfaite. Et donc là encore, on se dit, ça va très 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 vite. Et évidemment, les applications derrière, parce que ça sert, enfin, dans l'absolu, ça sert pas à grand chose de faire courir un robot comme ça. Mais c'est que tu vas avoir des robots qui vont pouvoir être utilisés dans des usines, dans des entrepôts, dans la défense. Aussi dans l'armée pour je sais pas faire de la patrouiller dans des zones dangereuses, tu peux les utiliser pour faire de la surveillance industrielle, enfin on peut imaginer plein de cas d'usage pour des robots médicaux aussi, concevoir des nouveaux types d'exosquelettes. En fait, toutes les avancées qu'on voit ici dans le domaine de la motricité, de la souplesse, de l'agilité, et qui sont, c'est vrai, très spectaculaires, on va les retrouver d'une manière ou d'une autre dans nos vies dans les années qui viennent. Donc faut pas se dire juste ça sert à rien, c'est complètement débile. Non, en réalité c'est une démonstration technologique, mais derrière il y a des cas d'usage qui sont bien réels
là. Et faut pas croire qu'il y a que la Chine en fait derrière tout ça, parce que il y a Nvidia est vachement impliqué. Mm-hmm. Le moteur de l'intelligence artificielle à l'intérieur, c'est du Nvidia. Unitree là qui a été introduit en bourse récemment là, ça fait un carton et ils et ont après, présenté ils sont un peu tombés, ouais. Mais ils ont présenté un robot, ouais, qui s'appelle Superman, qui courait plus vite, encore plus vite que celui qui a gagné, qui fait des sauts de 2 mètres, etc. Ils ont aussi un nouveau robot qui s'appelle le H2+, c'est la plateforme de référence Nvidia. C'est Isaac Groot à l'intérieur. Et en fait, c'est ce qui va servir à tous les fabricants de robots.
Oui, c'est un peu le cerveau du robot. Mais
c'est ce que Nvidia a déjà fait avec l'IA. Mmh. L'IA, ils ont filé les kits de développement, les machins, vous avez toutes les briques. Développez votre IA. Nous, on a le matos et l'interface avec le matos. Ouais. Pareil pour les robots.
Et en fait, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a eu cette percée. D'ailleurs, si tu fais le parallèle entre la progression des robots et la progression de l'IA, je pense qu'on est sur les mêmes vitesses de oh waouh, comme c'est choquant. Et Nvidia, en fait, bosse depuis longtemps sur des moteurs de simulation du réel qui permettent d'entraîner des robots sans avoir à ce qu'ils existent physiquement. Et donc, c'est ça qui permet aussi ce genre de progrès.
Ouais.
Donc, ils sont très forts.
Et là, ça va très vite, en fait.
Ouais.
Je pense qu'on ne pensait pas que les robots iraient aussi vite. Et je pense que là, l'arrivée de l'IA et tout ça...
Moi, ça me fait penser, il y a 20 ans, avec Deep Blue, finalement.
Oui.
Où on commençait à avoir des robots qui tenaient tête aux meilleurs joueurs d'échecs. Et puis, un jour, Gasparov s'est fait battre. On vit la même chose, maintenant, dans un autre domaine, qui est plus l'électromobilité, finalement. C'est du calcul, mais c'est un autre type de calcul. Et voilà. Et la logique veut que dans quelques années, on se fasse battre par la technologie, par la mécanique, par l'IA dans tous les domaines humains.
C'est une nouvelle blessure narcissique, ouais, pour le.
C'est une nouvelle blessure narcissique.
C'est vrai, hein.
Et la différence.
Dont on enfante.
Ah oui,
ça.
Bien sûr.
C'est ça qui est
créé par l'humain.
Créé par l'humain.
Et à la différence d'un Deep Blue où il y avait, je sais pas combien d'ingénieurs derrière cachés pour lancer la bécane, pour que ça fonctionne, etc. Ouais. Là, les robots, vous pouvez même commencer à les acheter. Hein, ça coûte 30 000 balles. Hein, vous pouvez avoir une Unitree à la maison. Hein, bon, faut le faire venir.
Pour l'instant, ils sont un peu abrutis. Ouais. Pas trop faire voilà. Des choses.
Bah, mais s'ils peuvent courir, moi, ça m'intéresse. Moi.
Mais ça va aller vite.
Ah ouais, t'imagines.
Ah bah attends, trop bien. Un robot derrière
toi, comme ça.
Qui court avec toi.
Voilà, maintenant, c'est le grand public peut avoir ces robots.
Ouais, c'est clair.
Ou les entreprises.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'en fait, demain...
Alors, Deep Blue, c'était pas possible, quoi.
À Deep Blue, il fallait
un hangar.
Voilà, il fallait un hangar pour mettre la bécane.
Deep Blue, c'est le cas maintenant. Maintenant, t'as des IA, tu joues aux échecs, c'est dans ton téléphone, t'as 10 fois la puissance de Deep Blue. Hein. Tu joues à Stockfish, les programmes d'échecs qui sont infiniment plus forts que le meilleur joueur humain.
Mais
on reviendra jamais en arrière.
C'est grâce à cette miniaturisation, aujourd'hui, qu'on arrive à faire tout ça, quoi.
Ouais.
On termine, il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on évoque quand même l'actualité d'Apple, parce que ça bouge du côté de chez Apple. Vous le savez, le 9 septembre prochain, ça a été annoncé il y a quelques heures, Apple présentera ses nouveaux iPhones. Un rendez-vous à suivre, bien évidemment, chez nous, hein, dans Tech & Co. Le 9 au soir, on sera en direct dès 19h sur BFM Business, à la radio, à la télé, pour vivre tout ça. BFM Tech, tu en parleras aussi, bien évidemment, Anthony, sur Clubic. Forcément, ça sera toute l'actu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a déjà... Alors, Apple a déjà communiqué sur un produit qui est sorti, là. C'est leur nouveau processeur, en fait, qui est le M6. Alors, c'est décliné, il y a le M5 Max, M5 Ultra, ouais. Enfin, voilà, tout ça. Qui ont une particularité, c'est qu'ils sont d'une puissance Bah, incroyable.
C'est en fait c'est le nouveau Mac Mini hein, qui va intégrer cette puce M6 et en fait c'est devenu le Mac Mini est devenu chouchou des férus d'IA parce qu'en fait c'est la machine parfaite pour faire tourner des agents IA. Donc vous avez une mémoire unifiée, plein de puissance de calcul, et aujourd'hui c'est ce que utilisent les devs et même les passionnés, parce que vous n'avez pas besoin d'être dev hein, pour faire tourner des agents IA. Et voilà, donc Apple a sorti ça, 40% de puissance en plus. Le prix, par contre, il augmente. Hein, on était avant le Mac Mini, oublié le Mac Mini à 600 euros, là c'est fini hein, cette histoire. Maintenant on est à plus de 1000 euros. Pour une bécane en 16 gigas avec 256 gigas de stockage.
Et le Mac Studio qui n'est pas encore disponible avec le max de mémoire vive, tu pourras le configurer bientôt avec 512 gigas, ça coûtera, je pense, 30 000 euros. Donc, voilà.
Et ça marche vraiment là, le truc, ce que tu disais. Moi, j'en ai vu plein là, passer sur les réseaux sociaux des messages de mecs qui disent oh, j'ai acheté 5 ou 10 Mac Mini, je l'ai fait tourner, et en fait, c'est mon entreprise, quoi. Les gens, ils ont une entreprise qui tourne toute seule.
Ils ont leur propre IA.
Ouais. Et du coup, ils génèrent des revenus comme ça. J'ai toujours l'impression que c'est une arnaque.
Ils utilisent OpenClaw. On a fait des dossiers, nous, sur Clubic. Hein,
Hermès, qui est le remplaçant.
Ouais. Voilà, et vous utilisez, en fait, c'est un gestionnaire d'IA, d'agent IA.
Moi, je ne suis pas d'accord avec ce
ça
truc.
Ça fonctionne plutôt bien.
Mais oui, ça fonctionne. Et effectivement, tu peux faire tourner des modèles en local, mais le progrès et la puissance des puces fait que et le progrès des modèles fait que par exemple les modèles qu'on appelle de frontières c'est tous les plus récents les plus puissants comme Sol et Fable chez OpenAI et chez Anthropic ne peuvent pas tourner sur un Mac Mini et en fait
pourquoi parce que c'est pas assez
puissant il faut encore plus
ça tourne dans des fermes de serveurs
mais est-ce que t'as besoin de toute cette puissance l'ordinateur agentique en fait ce qui est bien c'est que tu peux faire des trucs assez basiques
bien sûr.
Avant qui nécessitaient des serveurs le faire dans le cloud
bien
là
sûr,
avec
un
Mac
quand
Mini
même pas mal de RAM si voilà. Tu veux
il faut de la RAM de toute façon c'est la RAM
un modèle comme Quen etc il faut 20 gigas de RAM donc il faut un Mac qui a déjà 20 gigas et en fait la configuration
mais après c'est une équation économique
oui mais l'équation
exemple, tu investis 10 000 balles dans un, je dis n'importe quoi, dans un Mac avec 20 gigas de RAM.
Ça fait une belle somme déjà.
Ouais, mais est-ce que ça va pas te faire économiser des tokens
ça dépend.
Que tu vas payer chez Claude?
Je trouve le calcul assez complexe parce que pour 20$ jusqu'à 200$ chez OpenAI et Anthropic, tu peux avoir des forfaits qui te donnent accès au modèle frontière, donc à la toute puissance. Au tout petit modèle qui coûte beaucoup moins cher.
Non, mais pas en illimité.
Ouais, pas en illimité. Ils ont recoupé, t'as vu, à tout moment, ils peuvent couper le
nombre de calculs. J'ai un abonnement à 200$. Donc, versus investir 10 000.
Par contre, tes données, tu maîtrises pas forcément tout.
Bien sûr. Non. Mais la puissance du truc, elle est folle. Ça marche de partout. T'as pas besoin de maintenir un data center chez toi. Et il n'y a pas un coût upfront de 10 000. Et surtout, si un éditeur qui sort demain quelque chose de mieux, j'arrête mon abonnement à 200 chez celui-là, j'en change. Une fois que ta machine, tu l'as achetée, si le processeur...
Ça peut avoir un intérêt.
Et là, par exemple, OpenAI, ils viennent d'annoncer leur propre puce, comme les TensorFlow de chez Google, etc., qui ont l'air d'augmenter les capacités et la vitesse de leur système d'une magnitude qu'on n'aura pas avant un bout de temps sur nos machines. Donc,
C'est quand même une grosse tendance, parce que tu vois, en Chine, la grande tendance, c'est tu prends les cartes graphiques Nvidia d'il y a 2-3 ans, t'augmentes la mémoire vidéo, et ça te fait des super ordinateurs pour faire un ordinateur agent.
Ouais, c'est clair.
Ça te permet de faire tourner les trucs en local, et pas forcément, tu cherches pas forcément le truc le plus puissant, mais pour aller, pour envoyer un bot, pour aller faire une revue de presse, est-ce que tu as besoin d'aller forcément prendre un abonnement à 200 balles?
Bon, écoutez, on va terminer de quoi je mène sur cette question de Nicolas Guyot. Merci à tous les trois. Merci Anthony.
Merci François, merci à tous.
Anthony Morel sur BFM Business, Gonzague d'Ambricourt, merci mon Gonzague, à très vite. Et puis Nicolas Guyot, rédacteur en chef de Clubic. Si vous voulez évidemment avoir toute l'actu, Clubic est là pour ça.